Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique au micro, Idrissa Seydoudia, bonjour. Le président américain Joe Biden a affirmé hier lors d'un discours à la Maison-Blanche que son choix de quitter l'Afghanistan représentait la meilleure décision pour l'Amérique. Nous reviendrons sur ce discours avec Abdourahman Dia. En République démocratique du Congo, deux personnes ont été tuées et sept blessées dans deux fusillades lundi et mardi soir à Goma, chef-lieu de la province troublée du Nord Kivu, a-t-on appris de sources concordantes. La dernière fusillade qui a coûté la vie à un cambiste a semé la panique dans le centre de la ville. Selon des voisins, les agresseurs circulaient à moto. À partir du 4 septembre, la circulation des motos, mototaxis et usagers privés sera interdite après 19 heures, a annoncé le maire de la ville. RDC toujours, 8 policiers et 11 militaires congolais ont été condamnés en appel à des peines de 12 mois à 20 ans de prison ferme pour des viols commis principalement sur des mineurs. Michel Joseph fera le point. Pendant ce temps, grande indignation en Côte d'Ivoire, où des mots comme écœurant, humiliant, inadmissible ont accueilli une émission télévisée censée dénoncer le viol et qui a cependant mis en scène lundi un ancien violeur et un animateur riant devant un public goguenard. Côte d'Ivoire toujours, l'OMS a annoncé hier qu'il n'existe aucune preuve de la présence du virus Ebola dans ce pays après de nouvelles analyses de l'Institut Pasteur de Lyon sur les prélèvements réalisés sur une jeune Guinéenne présentée par les autorités ivoiriennes comme infectée mi-août. Le vaste essai clinique d'un vaccin contre le VIH, le virus qui cause le sida, mené par Johnson & Johnson dans 5 pays d'Afrique subsaharienne, a été stoppé faute de résultats concluants, a annoncé ce mardi l'entreprise pharmaceutique américaine. La justice tunisienne a lancé mardi un avis de recherche contre un ex-candidat à la présidentielle Nabil Karoui et son frère député Ghazi Karoui, dont l'arrestation en Algérie voisine a été annoncée dimanche par des médias tunisiens. Selon ces derniers et des militants sur les réseaux sociaux, l'arrestation des frères Karoui était en échange de la remise de Slimane Bouhafs à l'Algérie, annoncé et dénoncé lundi par plus de 40 organisations tunisiennes de défense des droits humains. Des rebelles tigréens ont pillé ces dernières semaines de l'aide humanitaire dans le nord de l'Éthiopie, où s'est étendu le conflit dans la région du Tigré, qui dure depuis près de 10 mois, selon un responsable de l'USAID, l'Agence américaine d'aide internationale, dans le pays. L'OMS surveille un nouveau variant du coronavirus baptisé Mu qui a été identifié pour la première fois en Colombie en janvier, a-t-elle indiqué dans la nuit de mardi à mercredi. Selon l'OMS, ce variant présente des mutations qui pourraient indiquer un risque d'échappement immunitaire, une résistance au vaccin. Couvre-feu mardi soir à la Nouvelle-Orléans. Près de 2 jours après que l'ouragan Aïda a frappé les côtes de la Louisiane, 16 ans exactement après Katrina qui avait fait plus de 1800 victimes, 4 décès ont été confirmés et les sauveteurs ont commencé à rechercher des personnes isolées. La décrue des eaux commence à révéler l'étendue des dégâts le long de la côte américaine du golfe du Mexique. Un homme est également porté disparu après avoir été apparemment tué par un alligator. Crash d'un hélicoptère de la marine américaine dans le Pacifique au large de la Californie, des opérations de recherche et de sauvetage ont été lancées, a annoncé l'armée américaine. L'ancienne star de la Silicon Valley, Elizabeth Holmes, qui a lancé Theranos en 2003 à 19 ans et promettait de révolutionner les tests sanguins avec sa start-up, assisté hier au tribunal de San José à la sélection du jury qui devra déterminer si elle s'est rendue coupable d'une fraude massive à propos de ses tests sanguins. Le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, promet de promulguer la loi électorale controversée adoptée hier par le Parlement texan à majorité républicaine. Ses détracteurs disent qu'elle vise à restreindre le droit de vote des minorités. La suite de nos informations. Le président américain Joe Biden a défendu avec force hier sa décision de retirer les troupes américaines d'Afghanistan 24 heures après le départ des soldats de Kaboul. Pour lui, c'était la meilleure décision pour l'Amérique. Le point avec Abdourahman Dia.
Je vous donne ma parole du fond de mon cœur. Je suis convaincu que c'est la bonne décision, une sage décision et la meilleure décision pour l'Amérique, a déclaré Joe Biden lors d'un discours solennel depuis la Maison-Blanche. Il a ajouté que les États-Unis devaient choisir entre le départ et l'escalade militaire dans la plus longue guerre américaine après l'accord passé par son prédécesseur Donald Trump avec les talibans. Nous n'avions plus qu'un choix simple, soit suivre l'engagement pris par la précédente administration et quitter l'Afghanistan, soit dire que nous ne partirons pas et renvoyer des dizaines de milliers de soldats à la guerre, a déclaré le président américain. Joe Biden a aussi mis en garde le groupe État islamique, responsable de la mort de 13 soldats américains dans un attentat jeudi à l'aéroport de Kaboul. En tant que commandant en chef, je crois fermement que la meilleure voie pour protéger notre sécurité passe par une stratégie dure, impitoyable, ciblée et précise qui traque la terreur là où elle se trouve aujourd'hui, pas où elle était il y a 2 décennies.
Au Nigeria, au moins 17 personnes, dont un soldat et un travailleur humanitaire, ont été tuées dans le nord-est du pays lors de nouvelles attaques attribuées à l'ISWAP, le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest. Précision de Mohamedou Humfa.
Des centaines de combattants d'ISWAP ont pris d'assaut lundi la ville de Ran à la frontière avec le Cameroun, chassant les soldats de leur base et occupant la ville pendant plusieurs heures. L'attaque a provoqué un exode massif des populations vers le Cameroun. Par la suite, l'armée a réussi à reprendre le contrôle de la ville grâce à un appui aérien. Des combattants lourdement armés sont entrés à pied au milieu de la nuit et ont submergé les soldats qui ont dû abandonner leur base, a déclaré un chef de milice dans la ville. Les djihadistes ont pris des armes avant d'incendier des bâtiments et des véhicules, a ajouté ce chef de milice. L'armée nigérienne a confirmé l'attaque, affirmant que ses troupes ont regagné leur base et rétabli l'ordre après avoir été submergées. Ran, qui abrite quelques 35 000 déplacés, a été ciblée à plusieurs reprises par ISWAP et Boko Haram. En mai, ISWAP a attaqué la ville et tué 35 personnes, dont 5 soldats et 15 miliciens. ISWAP, né d'une scission avec Boko Haram en 2016, a consolidé son contrôle dans cette région depuis la mort en mai du chef de Boko Haram, Aboubakar Shekau, lors d'affrontements entre les deux groupes rivaux.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, 8 policiers et 11 militaires ont été condamnés en appel à des peines de 12 mois à 20 ans de prison ferme pour des viols commis principalement sur des mineurs. Ils ont également été condamnés au paiement de dommages et intérêts à l'issue d'une audience foraine tenue du 20 au 30 août à Walungu, a indiqué la cour militaire du Sud Kivu. Le point avec Michel Joseph.
Ce procès en appel est exemplaire pour les droits des femmes, a estimé le colonel magistrat Innocent Mayemba Sangala, premier président de la cour militaire du Sud Kivu, interrogé mardi par l'AFP à son retour à Bukavu. « Je demande à tous les militaires et policiers de respecter les droits des femmes », a-t-il ajouté, soulignant que la justice était extrêmement rigoureuse en matière de viol et surtout de viol d'enfants. Les victimes sont des enfants dont l'âge varie entre 3 mois et 17 ans, ainsi que des femmes qui ont été arrachées aux mains de leurs époux ou violées devant leurs frères et leurs enfants. C'était tellement sauvage que la cour ne pouvait pas être clémente, a-t-il encore commenté. Les viols jugés ont été commis sur une période allant de 2016 à 2021 dans plusieurs agglomérations du Sud Kivu, comme au camp militaire Saïo, dans la ville de Bukavu et dans les territoires de Walungu, Kabare, Uvira et Fizi. L'audience a eu lieu avec le soutien de la Fondation Panzi du docteur Denis Mukwege, qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2018 pour son engagement contre les violences sexuelles faites aux femmes dans l'est de la RDC. La Fondation, qui apporte également un soutien juridique aux victimes pour lutter contre l'impunité des auteurs de crimes sexuels, s'était portée partie civile au procès. C'est un sentiment de satisfaction totale parce que sur une vingtaine de dossiers, nous venons d'obtenir 16 confirmations de jugement du premier juge, a déclaré de son côté Migabo Ngabo, un avocat des parties civiles. Pour la défense, maître Idom Sikourou s'est également déclaré satisfait car la cour d'appel a acquitté 4 accusés qui avaient été condamnés en première instance. Pour les condamnés, nous allons aller à la haute cour militaire, a-t-il dit, espérant que cette juridiction pourrait casser les décisions prises par la cour de Bukavu.
Et maintenant les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Les quarts de finale de l'Afrobasket qui se joue à Kigali au Rwanda commence aujourd'hui. La Guinée affronte la Côte d'Ivoire et l'Angola fait face au Sénégal. On a connu hier les deux derniers qualifiés pour les quarts. Il s'agit des Ougandais qui ont battu le Nigeria en match de barrage 82 à 68 et des Sud-Soudanais qui ont sorti le Kenya 60 à 58. Jeudi, dans les deux derniers matchs des quarts de finale, le Cap-Vert sera donc opposé à l'Ouganda et la Tunisie jouera le Soudan du Sud. Football, la première journée des éliminatoires du Mondial 2022 Zone Afrique débute aujourd'hui. 40 sélections africaines sont en lice pour décrocher l'une des 5 places qualificatives réservées à l'Afrique à la prochaine Coupe du Monde 2022. À suivre ce mercredi, Centrafrique contre Cap-Vert dans le groupe C. La Guinée-Bissau reçoit la Guinée dans le groupe I. Le Sénégal joue le Togo dans le groupe H. La Libye affronte le Gabon dans le groupe F. Et le Mali et le Rwanda s'affrontent dans le groupe E. Transfert en Europe, le mercato estival s'est refermé hier. Dans la plupart des championnats, il y a eu de grands mouvements. Le feuilleton Kylian Mbappé a lui tenu en haleine les fans jusqu'aux dernières heures du mercato. Mais les offres du Real Madrid, 160 millions d'euros, puis 180 millions bonus inclus, n'ont pas fait fléchir les dirigeants parisiens qui conservent finalement leur star en fin de contrat en juillet 2022. Pour les joueurs africains, Naples a officialisé l'arrivée de l'international camerounais Franck Zambo-Anguissa, prêté par Fulham avec option d'achat. Après la Ligue 1, la Premier League et la Liga, Zambo-Anguissa va ainsi découvrir un quatrième championnat à seulement 25 ans. Le milieu défensif camerounais de Lille, Junior Onana, a lui rejoint Bordeaux pour un contrat de 5 ans. Le joueur de 21 ans a fait ses débuts internationaux en octobre 2020 et a passé la saison dernière en prêt à l'équipe belge de Mouscron. Pour sa part, le jeune milieu de terrain formé au FC Barcelone, Ilaïs Moriba, a été transféré à Leipzig pour 16 millions d'euros plus 6 millions de bonus. Moriba, 18 ans, d'origine guinéenne, s'est engagé avec le club allemand jusqu'en 2026. Le milieu de terrain international français Eduardo Camavinga, 18 ans, lui quitte Rennes pour rejoindre le Real Madrid jusqu'en 2027. L'international français Antoine Griezmann retourne à l'Atlético Madrid après 2 saisons au FC Barcelone qu'il a prêté avec option d'achat. Le meneur de Bleu, 30 ans, transféré 2 ans plus tôt pour 120 millions d'euros, retourne donc dans le club où il a explosé et dont il a porté 5 saisons le maillot de 2014 à 2019.
Merci, Yacouba. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sedoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Sénégal, les populations sont confrontées à une hausse quasi générale des prix des denrées de première nécessité. Sur le net, les jeunes comparent d'ailleurs ceux de 2012, année d'accession du président Macky Sall au pouvoir, au prix d'aujourd'hui. Sur cette période, le litre d'huile est passé de 600 à 1300 francs CFA, le sac de riz de 50 kg de 12 000 à 15 000 entre autres, une situation qui a obligé le président Sall à convoquer un conseil national. De Dakar, notre correspondant Sédina Abagay.
Il y a de cela quelques mois, les consommateurs dénonçaient la hausse du prix du kilogramme de viande. Aujourd'hui, on assiste à une augmentation des prix pratiquement sur toutes les denrées de première nécessité. Une situation qui pèse sur les ménages, notamment les gagne-pains. Mère Oulimata a l'air désemparée, mais elle tente quand même de nous expliquer la gravité de la situation.
C'est très très dur. Les mères et pères de famille sont fatigués. Le sucre, le savon, l'huile, toutes ces denrées coûtent cher en ce moment. Pour résumer, la hausse des prix des denrées est générale. Nous nous sentons impuissants car on ne peut pas rester sans manger ni faire le linge. Si vraiment il y a possibilité de revoir à la baisse les prix des denrées alimentaires, il faut le faire. Cette situation est plus qu'intenable.
Sous le couvert de l'anonymat, ce père de famille fait ses courses au marché Castor. Lui aussi est consterné par cette hausse quasi générale.
Nous sommes sans voix face à cette hausse du prix des denrées de première nécessité dont on ne connaît pas vraiment les raisons. Le sucre, par exemple, au-delà du prix qui est monté jusqu'à 700 francs, il y a une pénurie. C'est le même constat pour l'huile qui est passée à 23 500 francs pour la bouteille de 20 litres.
De leur côté, les commerçants se dédouanent. Yamar est commerçant. Il avoue qu'il est délicat de gérer cette situation indépendante de sa volonté.
C'est un peu gênant pour nous d'appliquer du jour au lendemain une hausse sur le prix des denrées de première nécessité. Personnellement, je suis parfois obligé de négocier avec eux et il m'arrive même de vendre à perte. Pourtant, nos fournisseurs ont des prix fixes et ils ne nous laissent pas le choix.
Conscient de l'impact négatif de la hausse des prix des denrées de première nécessité, le chef de l'État a convoqué ce mardi un Conseil national de la consommation. Après concertation avec les acteurs du secteur, la ministre du Commerce, Aminata Assom Diatta, annonce des mesures pour stabiliser le marché.
Le Conseil national propose au gouvernement des mesures complémentaires suivantes. La réduction de la taxe d'ajustement à l'importation, qui passerait ainsi de 10 à 5% sur les huiles brutes importées. Le maintien de la TVA à 0% sur le riz. La suspension des droits de douane sur le blé. L'application d'un taux de 0% de TVA sur la farine de blé. Le rétablissement des stades de commerce. L'administration des prix des bidons de 20 litres. La mise en œuvre des mesures rendant obligatoire la déclaration des stocks. L'homologation des prix des matériaux de construction.
Au-delà de ces mesures, le ministre des Finances et du Budget a annoncé la suspension de la taxe conjoncturelle sur le sucre raffiné importé. Déjà préoccupé par le Covid-19 et ses multiples conséquences, les populations doivent maintenant faire face à la hausse des prix des denrées alimentaires qui impactent négativement leur quotidien. Seydina Bagué à Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
En Guinée-Léodore 3, où les cités universitaires sont fermées, certains transformées en salles de classe depuis plusieurs années. Dans la capitale Conakry, certains étudiants venus de l'intérieur du pays sont obligés de faire de petits boulots pour faire face à la précarité. Le point avec notre correspondant Zakaria Camara.
La plupart des étudiants venus des localités éloignées restent dans la capitale pendant les vacances pour préparer la rentrée. Certains, comme Faya, ont trouvé une activité génératrice de revenus.
Je suis obligé de faire ce métier de la coiffure pour pouvoir subvenir à mes besoins tels que mes brochures, tels que ma connexion, tels que pour payer ma maison, mon manger, pour aussi ma santé.
Dans la capitale, nombreux sont les étudiants qui partagent une situation de précarité. Mais chacun a une histoire particulière. Cette étudiante a choisi de vendre des tickets de loto.
Nous avons pris un appartement, moi et mes amis. Donc on cotise chaque fin du mois. Le peu qu'on gagne, on donne au propriétaire. Je ne peux pas aller dans les mêmes villes comme ça, voir mes parents au village. Donc le peu que je gagne, je préfère les envoyer. L'année prochaine, quand je vais finir mes études, j'irai les voir.
Les étudiants guinéens jugent la bourse d'entretien mensuelle de 10 dollars insuffisante et pour joindre les deux bouts, Tambaka Mano a pris des risques.
J'ai une moto qui me permet aussi de subvenir à mes besoins en faisant du taxi. Mais bon, vous savez combien de fois on prend le risque. Piloter une moto dans la capitale, c'est un risque. Mais on est obligé de le faire parce qu'on n'a pas d'autres ressources.
Les dortoirs sont fermés en Guinée depuis près de 15 ans. Le gouvernement promet de construire des cités universitaires pour y loger des étudiants. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Chaque 31 août, le continent africain célèbre la journée de la médecine traditionnelle. Une maison spécialisée dans la recherche de remèdes à base de plantes traditionnelles, spécialement l'artémisia, a tenu une conférence de presse pour faire entendre la voix des tradis praticiens de la région. Ils demandent que leur profession soit valorisée par les autorités et par les organisations internationales de santé. Reportage de Zanem Netizaidi, notre correspondant dans la région.
Justin Mwamba, médecin généraliste et chercheur au sein de la maison Artemisia, une maison spécialisée dans la recherche des remèdes naturels à base des plantes traditionnelles, spécialement l'Artemisia, a martelé que l'Organisation mondiale de la santé doit faciliter les liens entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne. Pour lui, ces deux types de médecine sont complémentaires en ces jours où le monde est confronté à plusieurs crises sanitaires.
C'était impérieux et qu'il était aussi obligatoire même que les deux médecines puissent collaborer pour trouver un terrain d'attente. L'Organisation mondiale de la santé, je recommande vraiment qu'elle donne encore de la valeur égale aussi à la médecine traditionnelle qu'à la médecine moderne. S'il s'agit des financements, s'il s'agit de l'accompagnement, que l'Organisation mondiale puisse accompagner les deux médecines.
La plante Artemisia a été au centre des discussions lors de la conférence organisée à l'occasion de la Journée internationale de la médecine traditionnelle à Goma. Justin Bahati, tradipraticien, a donné quelques conseils sur l'utilisation de cette plante pour lutter contre le paludisme.
Souvent, moi, j'utilise l'artémisia séchée. On prend 5 grammes d'artémisia. On le met dans 1 litre d'eau bouillie et puis on fait l'infusion pendant 10 à 15 minutes. Et on commence à consommer 1 litre pour une journée. C'est 35 grammes donc pour 7 jours et tu es guéri du paludisme.
Quant à Bernard Chaco, agronome et chercheur, la vulgarisation de la médecine traditionnelle doit se faire à l'échelle mondiale. Il a également lancé un appel à ses concitoyens pour qu'il s'approprie la plante Artemisia.
Ça m'a été utile de façon que la prévention de la maladie, surtout la malaria, j'ai pu donner des conseils de les pratiquer beaucoup plus. Et ceux qui n'ont pas encore vu l'utilité de l'Artemisia, qu'ils puissent prendre ça en charge pour leur survie. Faire une sensibilisation partout dans le monde entier, que les gens puissent voir l'utilité de la médecine traditionnelle.
Tout au long de la conférence, le manque d'institutions en RDC pour l'apprentissage de la médecine traditionnelle a été décrié. Son usage n'est tout simplement pas officiel et au-delà, il faudra un cadre légal, comme l'a recommandé Gilles Toaibou, juriste des professions.
Maintenant, je comprends que la médecine traditionnelle doit interagir aux côtés de la médecine moderne pour pouvoir compléter certaines choses. Ce que je vais recommander, le fait de pouvoir chercher un cadre fiable, un cadre juridique par rapport au fonctionnement de tradipraticiens. Au-delà de ça, il faudra aussi une grande sensibilisation sur l'utilisation de certains produits traditionnels.
Dans son message à l'occasion de cette journée africaine de la médecine traditionnelle, Madame Matjidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS, a révélé que la date du 31 août est célébrée pour promouvoir la riche biodiversité des plantes et des herbes dans l'amélioration du bien-être sur les continents africains. Zanem Netizaidi à Goma pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la fuite des cerveaux africains. Alors que le secteur de la santé est paralysé au Nigeria par une grève de plusieurs semaines, des centaines de médecins ont participé récemment à Abuja à un séminaire de recrutement organisé par l'Arabie Saoudite. Récemment, on évoquait cette réalité en Tunisie où les jeunes médecins aspirent à partir à cause des mauvaises conditions dans leur pays. Pourquoi l'Afrique n'arrive pas à retenir ces milliers de cadres qui quittent chaque année le continent où ils ont été formés? Nous allons en débattre ce jeudi à 19h, temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Le programme des Nations Unies pour l'environnement a organisé ce lundi une cérémonie marquant la fin de l'utilisation de l'essence au plomb toxique dans les véhicules du monde entier. Une entreprise de Nairobi, la capitale kényane où se trouve le siège de l'UNEP, travaille sur la prochaine étape, convertir les bus et les véhicules utilitaires à l'énergie électrique. Reportage de Leni Rouvaga à Nairobi, récit de Claire Morin-Gibourg.
L'ingénieur Lucie Mugala et sa collègue Esther Werimou peaufinent leur stratégie pour équiper un bus de transport public avec des batteries au lithium. Les deux femmes travaillent chez Opibus, une entreprise privée de Nairobi créée il y a 4 ans et qui convertit des véhicules de transport public pour qu'ils fonctionnent à l'électricité. Lucie Mugala affirme que cette conversion va contribuer à réduire les effets des émissions de gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique.
Beaucoup a été fait pour atténuer les effets des gaz à effet de serre au Kenya, mais très peu est réalisé dans le secteur des véhicules électroniques. C'est ce vide que nous essayons de combler chez Opibus. Nous cherchons à maximiser l'impact en ciblant le plus grand secteur, qui est le secteur des transports publics, et avec cela, nous serons en mesure de parvenir, étape par étape, à une économie à faible émission de carbone au Kenya et en Afrique dans son ensemble.
Douglas Aguata travaille dans l'industrie des transports publics depuis 15 ans. Il dit dépenser parfois $80 par jour en carburant, un coût qu'il aimerait voir baisser. Cependant, M. Aguata témoigne que les conducteurs comme lui peuvent avoir du mal à s'adapter aux véhicules électriques.
Convertir les moteurs de l'essence à l'électrique est assez coûteux et vous constaterez également qu'il peut y avoir une pénurie de stations de recharge. C'est un vrai défi.
Joshua Anampiu est le directeur de la stratégie et de la planification au National Environment Trust Fund ou NetFund, une société d'État qui collecte des fonds pour la gestion durable de l'environnement au Kenya. Il affirme que le passage à une énergie propre nécessite un investissement de la part du gouvernement, mais cet investissement en vaudra la peine.
No matter how costly it looks right now, we know in the long run it will be more effective.
Peu importe à quel point cela semble coûteux en ce moment, nous savons qu'à long terme, il sera plus efficace pour préserver notre environnement. C'est une menace existentielle si nous ne prenons pas soin de notre environnement. Donc, oui, il y a des domaines où nous devons mettre en place des infrastructures. Et s'il faut changer tous les mécanismes de l'infrastructure, c'est évidemment coûteux. Et donc, pour penser à l'avenir, investissez peut-être maintenant, mettez un peu plus d'argent et nous en récolterons les bénéfices dans le futur.
Pour Lucie Mugala et d'autres champions de l'énergie propre, le défi sera de réduire les coûts de passage à l'électricité et d'encourager les consommateurs à avoir des actions plus écologiques.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa. Mm-hmm.
c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seboudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée.